Dans les décennies à venir, quelles sont les solutions face à cette menace grandissante? Aujourd'hui à 18h20, retrouvez l'émission Question du soir, mais là tout de suite, il est précisément 17h et vous écoutez France Culture.
France Culture, tout de suite, LSD, la série documentaire. Cette semaine, gentrification quand les espaces populaires sont bourgeoises. De Clémence Alzar, réalisation Gilles Blanchard.
Gentrification.
La gentrification.
Ah, quelqu'un connaît.
C'est intéressant même avec vos mots. C'est quoi pour vous la gentrification?
C'est quand un gentleman,
Non. C'est les gens qui bougent plus.
Gentrification, c'est plutôt rendre un lieu ou un endroit moderne. Moderne, mais la population, c'est pas vraiment adapté à ça, quoi.
Qu'est-ce que vous avez observé sur Saint-Ouen depuis que vous êtes petit, par exemple? Qu'est-ce qui a changé? Vas-y, Marion.
Au début, Saint-Ouen, c'était pas trop ça, quoi. C'était pauvre et que maintenant Macron, je sais pas qui a décidé ça, et ben pour montrer que même les quartiers pauvres en France, ils ont un potentiel, ben du coup ben il a changé et il a fait des nouveaux bâtiments.
Et qu'est-ce que ça a amené ces nouveaux bâtiments?
De nouvelles populations, des populations riches, aisées, c'est la même chose.
Vous le voyez ça à Saint-Ouen?
Bah oui, il y a des quartiers, ils sont grave, on voit leurs maisons, elles sont super belles, c'est des résidences et tout. Alors que d'autres...
Et les gens qui étaient là, il se passe quoi pour eux?
Bah, ils sont déplacés autre part.
Ouais, c'est
soit
ça, le
ça dépend, genre, le ça dépend de... leur revenu et tout, non?
Bon, on va y aller du coup.
Attendez, juste pour prendre la
table. Gentrification, quand les espaces populaires sont bourgeoises. Premier épisode. Saint-Ouen, ici, c'est le Grand Paris. Un documentaire de Clémence Alzar avec la seconde 2 du lycée Marcel Cachin de Saint-Ouen, réalisé par Gilles Blanchard.
C'est où on répond pour les questions? On doit noter là. Tiens, note.
Mais les bâtiments, ils n'ont pas changé, c'est juste qu'ils les ont un peu arrangés avec de la peinture.
Ici, il y a de la verdure et l'espace des piétons, il est plus élargi qu'avant. Ils ont rajouté la piste cyclable, ils ont rajouté un peu ici. Parce qu'avant, c'était en travaux. Et la place de la mairie, elle était plus courte. Il y avait plus de routes.
C'est devenu plus propre.
Voilà, c'est ça.
Ça donne envie.
Venir. Voilà.
De rester ici.
Voilà.
Regardez par exemple ce bâtiment là-bas.
Parce que là, c'est le début de quel quartier?
Les docks.
Déjà à droite, on voit une allée où il y a des quartiers riches. Et à gauche, où il y a les anciens bâtiments, il y a une grande différence.
C'est un nouveau resto, elle a dit la dame. Elle a dit c'est un resto, c'est le gagnant de Top Chef qui l'a fait.
Non, c'est celui-là le gagnant de Top Chef.
Non.
En fait, il y a un grand bar.
Non, c'est Thierry Marx.
Non, c'est celui-là.
Un ancien chef,
le
c'est celui-là.
Le Meida.
Bah, peut-être vous pouvez aller voir la carte.
On a pris en photo les menus. Bah, c'était assez cher, on va dire quand même. Attendez. 44 €. Wesh. C'est quoi le petit chablis?
Du vin.
Ouais, bah c'est bon.
Et les menus, regarde.
C'est là les menus déjeuner et tout. Menu déjeuner 19,50 €, donc 20 €. Et menu enfant, 12 €. Là-bas, il n'y a que du poisson.
Ouais, donc, les fruits de mer.
Oui, voilà.
Moi, j'aime pas, donc j'irai pas.
Ou de poisson, 25 €. Enfin, voilà, c'est cher. Cru d'eau de thon, 23 €. Le thon. Franchement.
Bonjour. Enchantée. Venez par ici, peut-être. Restez pas dans l'entrée.
Mais après, quelques petites questions.
Oui.
Depuis combien de temps vous êtes installé ici?
Alors, on a ouvert le 11 juillet de cette année.
Et qu'est-ce qui vous a poussé à
venir à Saint-Ouen?
Alors, vous êtes de Saint-Ouen, donc vous savez certainement mieux que moi que ici c'était une brasserie institutionnelle de Saint-Ouen qui s'appelait le Coq de la Maison Blanche.
Oui.
Donc le propriétaire a vendu. Et il s'avère que le maire de Saint-Ouen connaît très bien le chef Thierry Marx depuis très longtemps. Ils ont décidé qu'ils voulaient faire de cet endroit un endroit ouvert à tous, pas très cher, pour donner accès à un restaurant traditionnel français à tous les habitants de Saint-Ouen qui le souhaitaient. Ici, en fait, vous avez plus de 50% du personnel embauché qui habite Saint-Ouen et qui habite dans les 5 à 10 minutes à pied du restaurant. C'était aussi un choix de faire travailler des gens habitant Saint-Ouen.
Et c'est quoi le thème de votre restaurant ?
Cuisine traditionnelle française. Chez nous, vous avez des œufs mayonnaise, on a un bœuf bourguignon, on a du riz au lait, Vous avez la cuisse de poulet frite, par exemple. Voilà, donc c'est vraiment simplicité et que ce soit bon.
Et c'est halal ou chaud ?
Non. Ah. Non.
Dommage.
Mais il y a du poisson.
Oui.
Voilà. Ah bah c'est il y a un peu de poisson, donc vous pouvez quand même venir manger.
Ouais, c'est vrai. Merci. Merci.
Je vous en prie.
Au revoir.
Ouais, non. C'est super, super pas cher.
Vraiment. Voir les entrées, ils sont entre 2,90€ et 5,50€. Les plats, ils sont de 6€, entre 6€ et 18,80€. Puis les desserts, c'est entre moins de 2,90€ et 5,90€.
Allez, on y va, les sociologues! Par ici, par ici, par ici! Néo, Néo!
Hé, les toits, c'est là-bas!
Néo, viens!
Est-ce que vous pourriez me décrire un peu Saint-Ouen pour vous ?
Bon, moi, étant jeune, on était à peu près 35 000 habitants. Aujourd'hui, on est aux alentours des 60 000 pour atteindre les 75 000 avec toutes les constructions. Il y a beaucoup de monde, il y a plus de véhicules, le coût de la vie est plus cher, il y a beaucoup de restaurants et de bars. Et déjà, même à l'époque, il y a 20 ans, 25 ans, on disait « Ouais, Saint-Ouen, ça va être le 21e arrondissement. » On en rigolait. Et aujourd'hui, ouais, ça peut.
Quand vous êtes arrivé en 78 et que vous aviez 6 ans, c'était comment Saint-Ouen ? Vous étiez où, vous ?
Mon père, c'était le gardien de la maison de retraite, des Roseraies, rue Edgar Quinet, en face du parc Marmottan, du square Marmottan. Garibaldi Rosé, qu'on appelle aujourd'hui.
Mourtar Diallo, éditeur de musique, figure du quartier des Rosiers.
Je suis resté là-bas 2-3 ans, avant de déménager et de venir habiter dans la cité des Boutentrains, qui est située dans les Puces.
Qui n'existe plus.
Il n'y a plus personne dedans, mais les tours sont toujours là. Ils devaient les détruire, on ne sait pas pourquoi. Ils ont pas. Je pense que ça coûte trop d'argent.
De les démolir ?
Ouais, exactement.
Et vous, vous aimiez bien ?
Moi, j'aimais bien parce qu'il y avait le balcon, j'habitais au 11e étage. Donc, ouais, c'était sympa. Et ça m'a pris un coup de vieux quand même. Hein. Ce qui a changé, c'est la nouvelle population. Moi, je trouve ça pas plus mal parce que ça rapporte de la mixité. Il y en avait pas trop. C'est-à-dire que les gens, quand ils arrivaient à Saint-Ouen, ils allaient aux Puces, mais ils descendaient pas plus bas. Vraiment. Et puis aujourd'hui, on voit qu'il y a le quartier des docks. Donc Saint-Ouen a été coupé en deux, on va dire. Moi, je pensais justement à la gentrification, c'est qu'on va vivre tous ensemble, on va se mélanger. C'est pas du tout le cas. En tout cas, à Saint-Ouen, c'est pas du tout le cas. Mais après, je ne sais pas où ils vont leurs enfants à l'école. S'ils vont à Jaurès, s'ils vont à Michelet, s'ils vont à Blanqui. La plupart des enfants, ils sont dans le 17e en école privée. Donc, pour moi, la gentrification, comme je vous disais, ça va ouvrir les esprits et tout. Et puis, je me rends compte que pas du tout. Les gens ne se mélangent pas.
Gentrification. L'usage du mot s'est démocratisé dans le champ académique et médiatique ces dernières années. Un collègue croisé au hasard dans les couloirs de la radio me rapportait qu'un agent immobilier l'avait récemment utilisé lors de la visite d'un appartement à Aubervilliers dans le 93. « Ne vous inquiétez pas », lui avait-il dit, « ici, ça se gentrifie ». Il reste toutefois un peu obscur pour beaucoup. Le mot vient de l'anglais « gentry », qui signifie « bien-né ». En français, on peut le traduire par « embourgeoisement ». Selon la géographe Anne Clerval, le phénomène désigne une forme particulière d'embourgeoisement d'un espace populaire qui passe par la transformation du bâti, la montée en gamme des commerces et l'embellissement de l'espace public. Il touche en premier lieu les quartiers anciens et ouvriers des centres-villes et résulte en une progressive éviction ou paupérisation des classes populaires du fait de la hausse des prix de l'immobilier et du coût de la vie. C'est la sociologue allemande Ruth Glass qui l'invente dans les années 60 à partir de ses observations de Londres où elle est exilée. En France, depuis la fin des années 90, alors que Paris s'est déjà fortement embourgeoisé par les effets conjugués de la désindustrialisation, de la mondialisation et des politiques urbaines menées par l'État et la municipalité depuis la fin du 19e, la gentrification, c'est-à-dire en général d'abord la petite bourgeoisie intellectuelle, traverse le périph' et débarque en Seine-Saint-Denis. Les Lilas, Montreuil, Pantin, Saint-Ouen.
Je m'appelle Jeanne-Marie, j'ai 50 ans, je suis graphiste et j'habite à Saint-Ouen depuis 15 ans avec ma famille, mon mari, mes deux filles et nos deux chats dans une joyeuse maison au centre-ville, tout près de la mairie.
Comment vous êtes retrouvée à Saint-Ouen ?
On avait besoin d'espace, notre appartement parisien était un petit peu trop petit. On venait régulièrement à Saint-Ouen parce qu'on avait pas mal d'amis qui y habitaient déjà. Et des copains avaient décidé de partir en province et de revendre leur maison. Et donc on a simplement racheté une maison dans laquelle on venait déjà faire la fête.
Vous êtes arrivés il y a 15 ans.
C'est ça.
Et vos amis, c'était déjà un peu ce profil-là de, d'anciens parisiens qui s'étaient installés à Saint-Ouen ?
Oui, et qui avaient eu l'opportunité d'acheter avant nous, où les tarifs étaient vraiment très très bon marché. C'était, j'ai même pas idée de ce que c'était. On leur a acheté près du double, en fait, de ce qu'ils avaient payé.
Juste pour se représenter un petit peu, il y a 15 ans, une maison dans le centre de Saint-Ouen.
Alors, il y a 15, 16 ans, dans une maison dans le centre de Saint-Ouen, on n'en trouvait pas beaucoup. C'était aux alentours de 4 à 600 000 euros. Là, nous, on a 150 mètres carrés et on a payé 500 000.
Et aujourd'hui, bien sûr, ça a encore beaucoup augmenté.
Oui. Bah aujourd'hui, les gens ont de plus en plus de mal à acheter à Saint-Ouen. Ceux qui habitent là et qui veulent s'agrandir n'ont pas toujours la capacité d'acheter ce qui correspond à la surface dont ils ont besoin avec leurs enfants, par exemple. Et du coup, ils vont plus loin.
Comment c'était pour vous ? Est-ce que c'était simple de faire ce mouvement de quitter Paris pour aller s'installer en banlieue à Saint-Ouen ?
Honnêtement, c'était la banlieue la plus lointaine où j'acceptais d'aller. Donc il fallait que ce soit accessible en métro, à vélo, à pied, enfin que je puisse rejoindre mon boulot, que j'ai pas galéré en RER ou en quoi que ce soit. À partir du moment où il y avait une station de métro, c'était la dernière limite acceptable. Il fallait qu'il y ait de la culture près de chez nous, c'était indispensable. Il y avait aussi une école pas loin, Justine avait 4 ans et demi, sa petite sœur venait de naître, donc voilà, c'était nos conditions. Après, on doublait notre surface, on connaissait des gens, il y avait un espace extérieur, c'est une maison qui était complètement à réinventer, il y avait plein de possibles, je me suis remise à travailler à la maison, donc c'était une chouette aventure, enfin, non, c'était pas difficile.
Est-ce que vous aviez une image de Saint-Ouen au préalable ?
Non, je pense que j'avais pas d'image préconçue, qu'il y avait déjà les puces qu'on adorait où on allait se balader, mais non, on savait que c'était mélangé, enfin, mais ça faisait partie du deal, et puis c'était cool, justement, que ce soit multiculturel.
Et peut-être Justine aussi, vous pourriez répondre, comment c'est d'habiter à Saint-Ouen, finalement ?
C'est hyper sympa. Je ne peux que vous inviter à habiter à Saint-Ouen. En fait, il y a une vraie vie de village, on se lit facilement. Ouais, les gens se rencontrent très vite, il y a un gros tissu associatif aussi, donc finalement on est ravis d'être ici. Je pense qu'on a une vie qui est beaucoup plus intéressante que celle qu'on avait quand on habitait dans Paris. Enfin, à ce moment-là, il y a aussi peut-être aussi que les gens qu'on côtoie sont des gens qui viennent des mêmes corps de métier que nous. On est beaucoup d'indépendants, on est beaucoup de métiers des médias, de la communication, du théâtre, du cinéma. Pas mal de créatifs, donc je pense qu'il y a aussi des affinités électives et qu'on se retrouve plus facilement.
C'est une ville qui a beaucoup changé, en fait. C'est aussi par le travail de mes parents, mais rien que la création du Joli Mec et le café au coin de la rue là-bas, ça a radicalement changé le quartier. Avant, on avait donc un coin de deal au coin de la rue, et moi, enfant, je me rendais absolument pas compte que c'était pas normal. Et en fait, par le monde associatif, on a au fur et à mesure décalé les dealers.
On s'est mobilisé très vite avec des parents d'élèves pour monter un café associatif, pour se réapproprier l'espace urbain. Quand on est arrivé, c'était une présence qui était désagréable, mais c'était pas méchant. C'était des petits jeunes qui étaient là et qui nous disaient bonjour madame, qui portaient les courses aux mamies du quartier. Et puis ça s'est tendu avec le temps.
Et le café, donc le Joli Mai, c'était une stratégie pour justement en lien direct avec ce point de deal.
Bah, en fait, on s'est retrouvé un jour avec une grenade fumigène dans un arbre devant l'école, avec le GIGN qui sécurisait nos enfants à l'intérieur de l'école. C'était un mois avant les attentats du Bataclan. Et on s'est dit que ça, c'était pas possible. Donc on nous a proposé d'avoir plus de police devant l'école. Et on a refusé. Et en fait, à 13, on était 13 ou 14, on s'est dit bon, il faut qu'on fasse autre chose. faut qu'on invente autre chose. Et comme ce café, on savait qu'il appartenait à la ville et qu'il était disponible, et ben, on a assemblé nos petites énergies. On a vu ce qui était possible de faire. On a vu qu'il était utilisable parce que dans la bande, il y avait des architectes. Et notre porte d'entrée était effectivement les enfants et l'éducation. Donc un maximum de soutien scolaire, d'activités, d'ateliers pour les enfants. Et à partir de ce moment-là, effectivement, on devenait intouchable et les guetteurs se déplaçaient puisque il y avait quand même une espèce de forme de respect au fait qu'on s'occupe des petits.
Est-ce que c'était aussi une manière pour vous, ou ça l'est devenu, de vous poser la question de la gentrification, par exemple, et de votre rôle dans ce phénomène?
Pas forcément. Alors, il s'avère qu'effectivement, si on reste sur les clichés, ça a été monté par une bande de bobos. On va pas se mentir. En fait, nous étions tous, majoritairement indépendants ou chefs d'entreprise, avec des capacités à modifier nos emplois du temps et à nous rendre disponibles alors que d'autres personnes ne pouvaient pas le faire. Alors, bien évidemment, on était accompagnés par des parents, des parents du quartier, mais le nœud, le cœur, c'était des gens récemment arrivés, volontaires pour rendre l'espace public le plus agréable possible. Et aussi à se dire, oui, mais d'où on vient, c'était pas comme ça, donc on peut faire mieux. Il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas la même qualité de vie et que les gens autour de nous n'aient pas la même qualité de vie que ce à quoi on prétend ou on rêve. On n'a pas mesuré ce qu'on pouvait dégager comme image, parce que pour nous, c'était évident que c'était un café ouvert à tous. Et on s'est rendu compte que des gens n'osaient pas entrer parce qu'ils pensaient qu'on était entre nous. Et on en revient à cette histoire de bobos et de gentrifiés, de nouveaux arrivants. Et ça, c'était en 2016-2017. C'est pas si vieux et ça l'est déjà par rapport à la toute récente gentrification.
Simplement, je me demandais si vous y aviez réfléchi, comment lutter contre la gentrification.
Mais est-ce qu'il faut lutter? Est-ce qu'il faut lutter? Moi, je suis pas sûre. En fait, il y a plein d'avantages. Enfin, on le voit ces dernières années à la gentrification. Effectivement, des transports, des moyens qui sont mis en œuvre qu'on n'avait pas forcément. De nouvelles librairies. Enfin, c'est cool, hein. Donc, c'est un vrai avantage aussi. La ville devient plus belle, devient plus accueillante. Les puces ont été ripollinées aussi. C'est chouette. On a envie de venir. La seule chose, c'est qu'il faut préserver aussi les habitants historiques, les gens qui sont là depuis longtemps. Et du coup, bosser sur les logements sociaux, c'est pas normal que les gens ne puissent pas rester alors que c'est la ville dans laquelle ils ont grandi. Voilà, pour moi, c'est la limite du système.
Allez, on décolle. On va au doc.
On décolle.
Alors, on va à la cour des Lavandières.
L'endroit où on
vit. Donc, le conseil régional, ici, à droite. Les secondes.
Les enfants.
Regardez cette belle entrée, là.
Wow.
Comme je vous ai dit, c'est un peu comme l'Assemblée nationale de la région.
Il y a une école, une nouvelle école qui a été construite aussi. Il y a plein de trucs qui ont changé.
Ah bon?
Ouais, il y a plein de trucs. La rue, elle a complètement changé. Même là, il n'y avait rien ici. C'était ça juste...
Le
bah oui, ça, c'est nouveau. Ça a été fait il y a pas longtemps.
Ouais.
Mais ça a vraiment changé.
Ça.
Tous les anciens trucs sont en train de partir.
Ça rénove, en fait. Hein.
Ouais.
Hey, c'est trop beau. Ah, j'ai envie d'habiter ici, c'est trop beau.
Il y a plein de couleurs.
On est riche.
Je trouve qu'en bas des bâtiments, il y a des trucs où on peut se poser tranquillement avec de la verdure. Plein de trucs, il y a des bancs, il y a de l'eau, il y a des jeux. C'est comme si on était chez soi, mais en bas de chez soi. Le quartier, il est calme, parce qu'il n'y a pas beaucoup de voitures qui circulent.
T'as dit tout à l'heure, c'est un éco-quartier ici.
Oui, c'est un éco-quartier ici.
Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est censé être un quartier qui pollue moins. Du coup, il y a plein de plantes et tout. Bon, après, je vois à première vue, on voit pas trop que c'est un éco-quartier, mais bon. Là, il y a Carrefour City ici. Il y a un restaurant japonais un petit peu plus loin. C'est les premiers commerces et restaurants qui ont ouvert. Qui sont restés les seuls pendant longtemps, en plus de la boulangerie. Et au bout d'un moment, ils ont tout ouvert là-bas pour les Lavandières.
Est-ce que tu connais la communale, Maëlle?
Oui, je suis déjà y allée. C'est bien. Hein. Je trouve que c'est un lieu calme, il y a une bonne ambiance, il y a des lumières et tout.
T'as regardé un peu qui d'autre il y avait autour de toi quand tu y étais?
C'était des gens aisés.
C'était des gens aisés?
Oui. Oui, la plupart du temps, oui.
Tu le voyais à quoi qu'ils étaient aisés?
La manière de s'habiller, comment ils étaient physiquement, quoi. Leur couleur de peau aussi.
Ouais, tout ça.
Et voilà.
Des détails dans l'espace public nous indiquent parfois un certain stade de gentrification. Par exemple, un magasin Picard. En effet, avant de s'implanter dans une ville, la célèbre enseigne de produits surgelés est très attentive à son taux de cadre, selon les mots de son directeur du développement France, cité par Le Parisien en 2021. À Saint-Ouen, après près de 10 ans de pétitions et réclamations portées par des néo-odoniens, un magasin a finalement été inauguré début 2024, en présence du maire Karim Bouamran. Et pour cause, selon l'INSEE, le taux de cadre à Saint-Ouen a doublé entre 2010 et 2021 pour atteindre 18,3% de la population, quand les parts des ouvriers et des employés ont, elles, baissé de respectivement 5 et 3% sur la même période.
On est à Saint-Ouen, cette charmante ville qui est en pleine expansion autour de Paris, ville dans laquelle je vis depuis maintenant 3 ans, dans ce nouveau quartier des Docks, qui est tout neuf, hein, qui a moins de 10 ans d'existence. J'ai ouvert mon propre salon cette année, justement, suite au développement du quartier, je trouvais que c'était un manque. Il y avait zéro salon de coiffeur. Je travaillais sur une clientèle plutôt parisienne, donc à Paris dans le 17e. Et il faut dire les choses telles qu'elles sont. En première couronne de Paris, ce sont beaucoup de Parisiens qui migrent en première couronne parce que désir d'enfant, désir d'achat. Et donc, du coup, ça correspondait à la clientèle que j'avais à Paris. Donc, il fallait apporter aussi un service de niveau parisien. La réunion est terminée?
C'est bon.
Vous, madame, vous habitez Saint-Ouen?
Oui. Ça va faire 5 ans.
Qu'est-ce qui vous a amené à Saint-Ouen?
J'ai entendu Samuel répondre, et c'était exactement ça, c'était la pièce en plus et l'achat. Donc on a fait le combo des deux. C'est vrai, on a acheté dans tout le nouveau quartier, et c'est vrai que c'est très agréable, il y a une ambiance un peu village, et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai connu ce lieu-là, c'est en parlant avec des copines qui m'ont dit « Ah oui, t'as vu, il y a quelque chose qui a ouvert, ah oui, moi j'y suis allée, ah moi j'ai fait un devis, ah là là. »
Et Saint-Ouen, ça allait de soi pour vous deux de vous installer ici?
Pour être tout à fait honnête, on savait qu'on allait acheter sur plan, donc c'était un choix de raison et pas un choix de cœur. Donc on a regardé tout ce qui se faisait autour, donc on a regardé Saint-Denis, on a regardé Saint-Ouen, on a regardé Clichy, on a regardé Asnières. Et en fait, on a fait un joli tableau Excel. Et dans ce tableau Excel, en fait, Saint-Ouen cochait vraiment toutes les cases. Et maintenant, je fais la promotion de Saint-Ouen auprès de tous mes potes.
Et ça marche?
Et ça marche! Il y en a quelques-uns qui sont venus.
On a fait la promotion de Saint-Ouen à tout le monde autour de nous, moi beaucoup à mes clientes, ce qui fait que moi, que je travaille dans le 17e, je dois avoir au moins une 20aine de clientes qui ont acheté à Saint-Ouen derrière dans la foulée. Elles étaient entre Clichy et Saint-Ouen, je dis non mais Saint-Ouen, faites quoi en fait. Et en plus, vous avez une ligne automatique de métro. Et donc j'ai des clientes dans mes voisines, dans tous les bâtiments autour de moi. J'ai des amis qui après être venus faire notre déménagement ont décidé d'acheter sur plan directement ici aussi. Pour rien au monde, je retourne à la ville dans Paris. Mais vraiment. Et c'est vrai que je l'entends de la part de beaucoup de personnes qui se sont installées à Saint-Ouen. Tous mes voisins me disent « jamais je ne retournerai à Paris ». C'est une phrase qu'on n'aurait pas forcément entendue il y a 10 ans en arrière. Il y a 10 ans en arrière, les gens reculaient en banlieue et disaient « j'ai pas le choix ». Vous allez tourner la tête sur le côté. Voilà, on va pouvoir se réinstaller.
Vous diriez votre clientèle, Samuel, c'est tous milieux sociaux?
Oui, j'ai tous milieux sociaux. Évidemment, je vais toucher peut-être une population peut-être plus cadre, mais en même temps, c'est une population qui a beaucoup sur Paris, quoi, en fait. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais j'ai tout type de population. J'ai un certain prix sur mon salon. Je suis le salon le plus cher de Saint-Ouen, j'en ai bien conscience. Et à côté de ça, j'ai des personnes qui ont un niveau social plus petit, mais qui viennent aussi, qui vont préférer venir ici, venir moins souvent. C'est vraiment chacun voit midi à sa porte, quoi.
On va mettre la tête en arrière? Oui.
Dernier pour le diagnostic.
Exactement.
Je prends votre vaisselle.
Ok.
Allez-y, installez-vous. J'ai presque terminé et je suis arrivé. Hop là. Juste apporter un petit peu de légèreté dans la nuque. Voilà, allez.
C'est good.
Merci beaucoup.
Il y a un peu plus, mais 66. C'est bon.
On est actuellement dans un commerce qui vend à la fois du café et surtout qui permet de réparer des vélos. Et c'est un endroit qui mêle à la fois convivialité et mobilité douce, et ça fait partie de l'ADN des docks.
Simplement pour bien comprendre, les docks, c'est un promoteur unique.
Les docks de Saint-Ouen, c'est un aménageur. Un aménageur, c'est quelqu'un qui a eu une mission confiée par, en l'occurrence, la commune de Saint-Ouen à l'origine. Bon, métropole du Grand Paris par la suite, mais c'est un détail. Qui était d'aménager le quartier. Et après, de confier la création de chacun des bâtiments à des promoteurs différents.
Mathieu Bonny, de l'association Mon Voisin des Docks.
Différents promoteurs se sont vus attribuer des lots avec un certain nombre de contraintes. Des contraintes architecturales, et il y avait aussi des contraintes financières d'avoir un prix de vente à 4 500 € du mètre carré, donc un prix de vente qui était capé, et aussi avec une interdiction de revendre au-delà de ce prix de vente.
En faisant une plus-value.
En faisant une plus-value.
Elle n'a plus cours, cette clause-là.
Tout ce dispositif-là avait été mis en place par la mairie qui était en place avant 2014, qui était une mairie communiste. En 2014, il y a eu un changement de majorité politique où c'est l'UDI, la droite, qui est arrivée au pouvoir. Et le nouveau maire de Saint-Ouen a eu de cesse de vouloir libérer les prix. Donc il a fait sauter cette clause. Et il a aussi défini une nouvelle ambiance architecturale pour la suite des docks. Largement inspiré de Levallois-Perret ou de Courbevoie, c'est-à-dire des immeubles blancs, en pierre blanche agrafée dessus, en mode néo-haussmannien.
C'est intéressant cette référence à Levallois-Perret parce que c'est une commune dont l'histoire est celle d'une, là pour le coup, d'une gentrification radicale, puisque c'était une commune populaire qui est devenue très bourgeoise, mais après essentiellement gouvernée par la droite, dont les Balkany, bien sûr.
Ça a été vraiment le modèle voulu par William Delannoy. Il a amené l'équipe d'aménageurs à Levallois-Perret en leur disant « c'est ça que je veux ». Donc c'est ça qui est sorti, sauf qu'en 2020, il y a eu encore une nouvelle alternance où une mairie avec une majorité socialiste et écologiste a été élue, dirigée par Karim Bouamrane, et ils ont voulu remettre à la fois un aspect une exigence environnementale plus forte dans le projet et refaire du social. Parce que dans la seconde phase des docks, il n'y avait plus de logements sociaux. Ça s'est traduit concrètement dans le travail des espaces publics, avec une végétalisation extrêmement importante, avec des bancs, des chaises, avec des espaces de rencontre, des bâtiments, avec une accession à la propriété qui est possible aussi pour des classes plus modestes, par exemple avec le bail réel solidaire.
Cette opération-là, on peut considérer que c'est une opération de gentrification planifiée pour le coup. Ce qui est fou, c'est que ça a été mené par la mairie communiste, au nom de la mixité sociale. Et c'est 1/5 de la surface de la commune, avec plus ou moins 1/5 de population en plus. Enfin quelque
un
chose.
Tiers même maintenant.
Un tiers, ouais, c'est énorme en fait. Et c'est du logement neuf, des bureaux, des équipements et du logement social neuf aussi. Alors je crois qu'on est à 40% à peu près de logements sociaux, ce qui est beaucoup pour une opération comme ça. Souvent on en fait beaucoup moins. Mais néanmoins, par rapport à Saint-Ouen, c'est à peu près la moyenne de Saint-Ouen, ça n'en fait pas plus. Alors qu'avec la gentrification dans le parc privé, il y a plein de gens qui peuvent plus loger dans les quartiers des Rosiers ou ce genre de choses, par exemple.
Anne Clerval, géographe.
Donc si on voulait vraiment compenser les pertes dans le logement privé liées à la gentrification, il faudrait faire encore plus de logement social, enfin, et du logement très social, parce que les gens qui partent de ces logements privés, ben, souvent ils ont des revenus faibles. Ils ne peuvent pas accéder au logement social classique, il faut du logement très social.
Donc logement très social, c'est qu'il y a 4 catégories, c'est ça, dans le logement social?
Alors dans le logement social, vraiment considéré comme du logement social, il y a 3 catégories. Le très social, qui s'appelle le PLAI, le logement social qui était le HLM, mais on ne dit plus HLM, c'est le plus, et puis du logement social qui est pour des gens qui sont au-dessus des plafonds de logements sociaux, qui s'appelle le PLS. Alors pour l'instant, la loi impose que dans toutes les communes, il y ait 25% de logements sociaux, mais elle ne dit pas quel type de logements sociaux. Et après, dans des communes comme Saint-Ouen, ils ont déjà 25% de logements sociaux. Donc, il y a beaucoup de maires qui disent, bah, nous, on veut réduire le taux de logements sociaux parce que nous, on en a beaucoup plus que 25%. Et donc, il y a beaucoup de calculs comme ça qui sont faits, pas à Saint-Ouen sous la mairie communiste, mais clairement pendant la mairie de droite.
UDI de
William Delannoy. Alors lui, il a donné des permis de construire à la BNP pour le village des Rosiers. Il était très fier de dire à la presse qu'on allait vendre à Saint-Ouen à 10 000 euros le mètre carré, comme à Paris.
Est-ce qu'on peut dire que le Grand Paris est une vaste entreprise de gentrification ?
Bah, le Grand Paris au sens du Grand Paris Express, c'est-à-dire ce nouveau grand réseau de transport, donc 200 km de nouvelles lignes, 68 nouvelles gares, bon, qui n'est pas du tout encore sorti de terre. C'est d'abord un projet de transport, d'accélération, d'efficacité économique, de concurrence intermétropolitaine. Voilà, c'est tout ça, hein, d'abord ce projet. Mais c'est aussi un projet effectivement de renouvellement urbain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les futurs quartiers de gare... Donc 68 futurs quartiers de gare, il y a un droit de préemption. Enfin, la puissance publique peut plus facilement acquérir les logements et les terrains autour de ces gares sur une surface cumulée qui fait une fois et demie Paris. Donc aujourd'hui, il y a une fois et demie Paris qui est ouvert aux promoteurs. Notamment des foncières qui spéculent sur le sol, qui achètent le sol parce que ça ne vaut pas grand-chose et puis qui revendront à des promoteurs plus chers. Et donc les futurs quartiers de gare sont effectivement une occasion de faire de la gentrification planifiée qui marchera ou qui ne marchera pas, mais en tout cas, c'est essentiellement du logement neuf en accession à la propriété, donc inaccessible aux classes populaires, qui sont en fait un peu tournés vers des Parisiens qui vont pouvoir trouver, à des prix défiant toute concurrence par rapport à Paris, des logements neufs avec terrasses, avec voilà, des aménités qu'ils ne pourraient pas avoir à Paris, qu'ils ont eu dans les docks de Saint-Ouen, et que là, ils vont avoir à Saint-Denis-Pleyel, à Fort-d'Aubervilliers, à plein d'endroits comme ça.
Dans le livre que vous avez coécrit avec Laura Vogic, Les naufragés du Grand Paris Express, vous citez un des artisans du Grand Paris, oui, qui dit « L'enjeu des quartiers de gare, c'est de fabriquer des cartes postales du Grand Paris, de créer un événement urbain dans ces territoires que rien ne distingue et n'identifie aujourd'hui. »
Christian Blanc, c'était un peu le monsieur Grand Paris sous Sarkozy, parce que c'est Sarkozy qui a lancé le Grand Paris, et dit clairement « Le but, c'est d'effacer la banlieue. » Il faut vraiment penser que ce projet, il résonne à l'international. Enfin, voilà, les destinataires, ce n'est pas les habitants, c'est les investisseurs internationaux. Or, au niveau international, la Seine-Saint-Denis est connue très négativement. Quand il y a eu les émeutes en 2005, et le Grand Paris, c'est en 2007, dans la presse internationale, on dit « Oh là là, Paris est à feu et à sang », etc. Ça, c'est un peu un frein à l'investissement. Et donc, c'est effacer l'image de la banlieue, en fait. C'est ça qui est en jeu, y compris dans cette idée du Grand Paris, c'est faire que ça ressemble à Paris. Bon, ça ressemblera pas à Paris, en fait, mais que ce soit une extension de Paris et qu'on ne sente plus la différence, en fait. Tous les maires sont quand même plutôt contents. On leur donne une gare. Enfin, ça va améliorer les circulations. C'est un argument pour dire que ça va améliorer la vie des gens. Ce qui est sûr, c'est que ça n'a pas été pensé comme ça. On ne met pas autant d'argent pour améliorer la vie des gens, surtout quand c'est dans des quartiers populaires. Il ne faut pas rêver. Donc, ce n'est pas ça le but. Hein. C'était de relier les aéroports et les pôles d'emploi, faire qu'on aille plus vite d'Orly à la Défense. Hein. Enfin...
D'ailleurs, un député, peut-être Éric Coquerel, mais je ne suis pas sûre, ouais, avait dit ce qui serait dommage, c'est que la femme de ménage à qui on a promis qu'elle, oui, rejoindrait en 25 minutes la Défense, finalement, doive quand même prendre un bus.
Parce qu'elle est peut-être
loger dans le quartier de gare.
C'est sans doute Patrick Braouezek qui a dit ça. Oui, oui, c'est ça. Le problème, c'est l'enjeu du logement autour de ces gares. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, non seulement des gens perdent leur logement, soit parce qu'on a démoli du logement privé ou public pour construire les gares, soit parce qu'il y a des opérations de rénovation urbaine autour pour démolir des logements sociaux. Il y a des gens qui perdent leurs logements sociaux alors qu'ils voient la gare arriver. On a rencontré des gens, ça faisait 20 ans qu'ils galéraient dans les transports. Ils disent « Ah, il va y avoir une gare !» Et en fait, ils sont relogés à un endroit peu accessible parce qu'on démolit leurs bars et qu'on va faire du logement privé à la place. Par ailleurs, les logements qu'on construit, c'est 75% de logements privés en accession à la propriété, éventuellement 25% de logements sociaux, mais on ne sait pas lesquels. Et puis, la question, c'est que ça peut aussi faire augmenter les prix dans le parc ancien autour. Ça on ne peut pas le savoir encore, ça peut avoir des effets d'entraînement, et donc faire que vraiment plus rien soit accessible, et avec un processus de diffusion qui part de la gare.
Alors, dites-moi tout. Je vous écoute.
Alors, ce que je voudrais, c'est éventuellement cacher mes cheveux blancs, faire une petite couleur, parce que là, c'est... ou un balayage, parce que là, mes cheveux sont un petit peu tristes, on va dire.
Alors,
vous habitez à Saint-Ouen ?
Oui, j'habite à Saint-Ouen, vers le Garibaldi, vers le parc Marmottan.
Depuis longtemps ?
Depuis 2019. Je suis arrivée de Londres, et quand je suis revenue en France, je cherchais un endroit qui ressemble, entre guillemets, où il y avait moins d'immeubles très hauts, des petits pavillons où on pouvait respirer, une ville en train de bouger, de se transformer, un petit peu comme à Londres, où moi j'habitais à Brixton, où ce phénomène était déjà en cours, mais plus ancien.
Ce phénomène ?
Un peu de gentrification, de mixité, de villes qui se transforment. Et puis ça m'a beaucoup plu, en fait. Saint-Ouen, ouais.
Vous parliez de mixité. À votre avis, comment elle se vit, cette mixité, à Saint-Ouen ?
C'est une question un peu difficile, mais de façon plutôt bonne, hein, je dirais. Étant donné des tensions qui peuvent exister entre des personnes qui ne vivent pas du tout de la même façon et qui ont des cultures différentes, quoi.
Et elle se vit même à l'échelle d'un quartier ?
Moi, j'habite dans un quartier assez... je ne saurais pas comment le décrire, mais il y a quand même beaucoup de pavillons, il y a beaucoup de nouveaux immeubles. C'est assez facile, quoi. Je ne vis pas dans les quartiers les plus, touchés socialement par des problématiques sociales, quoi. Pas dans les grandes bars, pas dans les quartiers comme le Vieux-Saint-Ouen. À Garibaldi, c'est assez... je sais pas comment dire, mais assez apaisé, quoi.
C'est un petit peu embourgeoisé, comme le quartier des docks, en fait.
C'est assez embourgeoisé. Après, c'est vrai qu'il y a certaines fois les bobos qui sont un peu mal acceptés par les gens qui vivent depuis plus longtemps dans la ville, quoi. Mais bon, c'est aussi aux nouveaux arrivants d'être dans le respect de l'autre. Voilà.
Vous avez des enfants, vous disiez. J'ai l'impression que le profil type, c'est aussi quand même jeune famille avec enfants.
Ah, pas pour moi, en tout cas.
Oui.
J'ai un enfant de 6 ans. Oui, je suis dans le profil. Je suis dans le profil, hein, venu ici pour avoir plus grand, vivre dans un cadre de vie plus agréable qu'à Paris.
Votre enfant est scolarisé en école publique ?
Non, il ne l'est plus. Maintenant, il est dans une école privée à Paris. Depuis cette année.
Est-ce que vous voulez dire pourquoi ?
Parce que il est scolarisé proche de mon lieu de travail et pour moi c'était pratique en fait qu'il y aille. Et puis je fais très attention à son éducation et je voulais qu'il aille dans un établissement de bonne réputation. Et voilà, c'était important pour moi son éducation et c'était plus pratique.
Merci à vous. Très bonne soirée, et puis je vous dis à jeudi prochain. À jeudi dans 8 jours.
À jeudi dans 8 jours, oui.
Voilà, carrément. C'est tout bon pour moi.
Merci.
Merci beaucoup, bonne soirée
à
vous.
Soirée.
Au revoir. Je vous en prie. Oui.
Oui.
C'est une question qui revient souvent, en fait, sur l'école publique, et c'est vrai que même moi, dans mes voisins, j'ai beaucoup de gens malheureux qui ont mis à Saint-Ouen au début, et qui mettent à Paris dans le privé, en fait. Mais il n'y a pas d'école privée, en fait, à Saint-Ouen. C'est ça, le truc.
Là, actuellement, on est à l'Olympique de Saint-Ouen, juste en face du Stade Boer de Saint-Ouen, qui est, comme on peut le voir, en plein travaux. C'est l'un des bars où les gens se réunissent et avant et après. Et surtout, c'est le bar, genre, on va dire, officiel des ultras, quoi, un peu du Red Star.
Touko Gadam, rappeur.
Le Red Star, déjà, qui est l'équipe de la ville de Saint-Ouen, un des clubs les plus vieux de France. Pour nous, Audoniens, qui est emblématique et qui est représentatif de notre ville et qu'on soutient, quoi qu'il arrive, quoi. Donc voilà, un peu là où on est. Derrière, tu le vois, hein, y a des écharpes un peu partout avec des années, des trucs. On est... au milieu de l'univers football de Saint-Ouen.
Est-ce que vous pouvez dire où on est aussi dans Saint-Ouen, peut-être, pour situer ?
Alors, le Stade Boer, en fait, il se situe dans la partie qui est une des parties les plus proches de Paris. On a les puces de Saint-Ouen qui sont juste derrière. De l'autre côté du stade, il y a le périphérique, il y a la cité des Boutentrains qui, normalement, devrait être détruite dans pas très longtemps. En tout cas, maintenant, qui est fermée, déjà. C'est un des quartiers, il me semble, les plus anciens, parce qu'à l'époque, il y avait pas mal d'industries. Donc, c'est ce qui a aussi construit la mentalité de cette ville et donc la mentalité aussi du club et des supporters, je crois. Ouais, le Red Star, c'est populaire, Saint-Ouen, c'est populaire, et ça le restera, j'espère.
Et est-ce que vous avez vu un peu quand même les tribunes ou les gens qui venaient ici au Stade Bauer changer ?
Les anciens sont restés, et les nouveaux se sont mélangés aux anciens. Donc ça fait un public qui a grandi, mais pas changé en fait. Ça va avec l'évolution de la ville. Mais une belle évolution, moi, je trouve, du public et des supporters du club du Red Star.
Première rencontre, ici au Stade Bauer, sur le score de 2-2. Chers supporters, merci. Merci pour vos encouragements si précieux pour un match nul.
Transformer les docks et l'espèce de terrain vague géant dans lequel nous on allait faire du vélo quand on était petit, qui était abandonné, désaffecté, etc. Ouais, c'est cool de remettre de la vie là-dedans. Malheureusement, un mec comme moi qui a grandi au vieux Saint-Ouen, nous, ça nous sert pas à grand-chose à part faire beau dans notre ville. Mais c'est cool parce qu'il y a de la vie et que ça met quand même un truc en plus dans notre ville. Tu vois, donc voilà, après...
Mais le stade là-bas quand même...
Non, le stade là-bas, non. Le stade, vous touchez pas à notre stade.
Le Red Star, c'est seulement à Bauer, dit le slogan des supporters. En 2013, pourtant, le président du club, Patrice Haddad, propose de créer l'Arena des Docks, soit de déplacer le stade dans le quartier des Docks. Un projet vite qualifié de contre-nature par la mythique tribune Rino della Negra, avant d'être abandonné.
Tu peux pas faire ça. Tu prends la porte de Clignancourt, tu l'emmènes au Docks alors. Les puces avec. Non, on peut pas tout mélanger. On peut redonner de la vie à un endroit qui n'a pas vécu depuis je sais pas combien de décennies, mais ça va. Hein, laissez-nous tranquille.
Le Red Star aujourd'hui. D'ailleurs, il y a le Paris FC qui est venu jouer la semaine dernière avec des banderoles qui disaient ouais, Red Star, Bobo.
Mourtar Diallo.
Ils ont pas tort. Il est complètement devenu Bobo. Mais bon, ça veut dire quoi, Bobo ?
Bah ouais.
Voilà.
Mais ça se voit, par exemple ?
Ah bah oui, ah bah largement. Ah bah non, mais là, c'est clair, là.
C'est ça qu'Isabelle Marant, il y aura la valise bleue aussi, s'il
vous plaît. Moi, ça me fait rigoler, parce que Bobo, on peut mélanger entre des intermittents qui galèrent, qui sont blancs de peau, on se dit, ouais, mais c'est des mecs qui galèrent tous les jours. Donc après, il y a les... petits bourgeois, qu'on peut dire aussi, c'est des bobos. C'est dans quel sens ? Moi, je comprends plus. Le sens bobo, ça ne veut plus rien dire aujourd'hui.
Je suis d'accord. Ouais.
Alors, pour moi, un bobo, c'est un bourgeois culturellement de gauche et financièrement de droite.
Est-ce que vous voulez nous dire où on est, là ?
Alors là, on est dans l'association main-d'œuvre, créée en 98. C'était l'usine Valeo, pour en faire main-d'œuvre.
Qu'est-ce que c'est ?
C'est une association culturelle.
Main d'œuvre est un vaste lieu culturel à deux pas des puces de Saint-Ouen. Salle de spectacle et d'exposition, bar et lieu de résidence artistique.
J'ai un peu de mal à parler de main d'œuvre parce que moi je travaille à main d'œuvre depuis 98. Et comme on parle de mixité et tout, ici il n'y a vraiment pas de mixité ici. C'est de l'entre-soi pour moi, vraiment. Moi le problème que j'ai à main d'œuvre avec ma direction, c'est j'ai toujours ce problème-là. Je ne voulais pas intégrer les jeunes de la ville. Ça fait 25 ans qu'on existe. Il n'y a pas de jeunes de quartier ici. Après, on me dit, ouais, mais Moutard, t'abuses, il y a des Odoniens quand même. Oui, des nouveaux Odoniens, oui, il y en a. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas les nouveaux Odoniens. C'est ceux qui sont là depuis longtemps et que... Quand aujourd'hui, je vois des petits dealers qui ont 14 ans qui sont dans la rue, là, ça me fait chier, moi. J'ai envie de les intégrer, justement, avec ces petits jeunes qui viennent d'ailleurs pour apprendre autre chose. C'est ça, la richesse pour moi. C'est pas de dire, bon alors, on va faire un atelier rap avec les petits jeunes du quartier. Ok, ils ont grandi dans le rap. On va faire un atelier graphe. Ils ont grandi dans le graphe. On peut pas leur apporter autre chose.
Globalement, la gentrification, elle tend un miroir un peu malaisant à la gauche, je trouve.
Oui, bah, c'est, y compris parfois, hein, ça peut être des militants, des squats d'artistes qui s'interrogent sur leur rôle dans la gentrification et de fait, ils y participent. Alors après, on est bien d'accord qu'à la base, c'est des mécanismes du marché immobilier. C'est pas eux tout seuls qui font la gentrification. Voilà. On va pas jouer sur la mauvaise conscience des gens, mais plutôt sur des mécanismes de régulation des prix immobiliers, de régulation des loyers. Enfin, c'est ça qu'il faudrait faire. Pas juste dire aux gens, c'est mal ce que vous avez fait en venant dans un quartier. C'est pas une question individuelle et c'est pas une question morale. En revanche, il y a beaucoup de gens qui s'illusionnent sur ce qu'ils font, qui en sont pas bien conscients, enfin, de qu'est-ce qui se joue, disons, c'est pas forcément eux, mais qu'est-ce qui se joue dans leur installation à Saint-Ouen. Et beaucoup de gens qui ont un discours extrêmement naïf sur c'est merveilleux, cette mixité, tout ce mélange, etc., et qui se rendent pas du tout compte qu'en fait, ce qui est en jeu là, c'est une appropriation des possessions. C'est des gens qui sont en train de s'approprier un quartier au détriment d'autres et que eux, ils galèrent pour se loger. C'est pas les gentrifieurs qui en sont directement responsables. Eux, ils sont pris dans un marché immobilier qui fonctionne comme ça. Mais néanmoins, ce serait déjà pas mal s'ils avaient conscience de ce qui se passe. Mais...
C'est parti ! Vous étiez déjà venu au parc ? Dans ce parc-là ?
C'est la première fois ? Oui, c'est la première fois.
C'est bien. Il y a des beaux arbres, mais là...
On a un côté
qui est beau et là on a le. En fait on a un quartier ancien. On dirait deux pays différents.
Tu peux décrire justement.
Là on est au vieux Saint-Ouen. Moi j'habitais les bâtiments roses et derrière il y a la Seine. Et on a dû déménager parce qu'ils vont détruire les bâtiments. Je crois que c'était pour faire un espace vert ou un truc comme ça. Parce qu'ils trouvaient qu'il n'y avait plus assez de verdure. Ici, donc je crois que c'est pour ça qu'ils voulaient démolir du coup.
Moi aussi j'ai déménagé à un moment.
J'ai déménagé à même pas 5 minutes parce que bah, en fait on aimait bien ici, il y a plein de trucs qui sont proches, tout ça.
Bonjour.
Oh, bonjour, ça va?
Ça va avec vous? Et c'est mon ancien gardien justement. Et en fait bah, c'est la CEMISO, je crois que c'est l'agence.
Le bailleur social.
Oui, voilà ça. Ils nous ont fait nous reloger et voilà, c'est eux qui ont pris en charge en fait.
Moi je suis en état de choc, moi je redécouvre mon ancien quartier. Excusez-moi, on en pense quoi de ça là, les sociologues? On a traversé une rue et tout changé.
Comme dans ce quartier-là, il n'y a que des gens qui ont des revenus assez bas, et ben, on n'y prête pas beaucoup attention et on ne cherche pas à améliorer rapidement les bâtiments. Alors que ben, dans les bâtiments des docks, ben, on a fait toute une rénovation et parce qu'on voulait accueillir des populations plus avec des revenus assez élevés. Non, là, c'est la boucherie où je vais depuis toute petite.
Ouais, date la boucherie.
Tu connais même ça, cette boucherie?
Oui, mes grands-parents, ils habitaient au Landy. Et quand j'étais petit, je venais ici.
C'est surtout le dimanche. Le matin, on allait toujours accompagner nos mamans au marché. On allait là-bas. Même avant que je vienne habiter ici, il y avait des gens.
Le boulanger, il est là depuis au moins 20 ans.
Oui, ouais, vraiment.
Hey. Oh, je vais aller le voir.
Pourriez-vous nous présenter en quelques mots votre commerce?
C'est une boulangerie, je suis artisan boulanger.
Qu'est-ce que vous pensez des changements de la ville?
Je n'en vois pas trop, hein. On entend parler, mais pour l'instant, on n'en voit pas.
Pourtant, la mairie, ça a changé, ils ont fait des nouvelles installations et tout.
Installations de quoi?
Ils ont rénové, par exemple, le quartier des docks.
Ah ben, moi, je ne suis pas au doc, ça, il faut poser la question aux commerçants de docks. Ils sont mieux placés pour vous répondre.
Et au Vieux-Saint-Ouen, est-ce que les choses ont changé?
Et au Vieux-Saint-Ouen, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé?
Aucune.
Vous aimez bien ce quartier?
Oui, oui, ça va. On n'a pas à se plaindre. C'est un quartier vivant. On n'a jamais eu de problème. Et malgré tout ce qu'on raconte du quartier et qu'on voit c'est un quartier chaud, il y a ceci, il y a cela, mais à titre personnel, on n'a jamais eu de problème.
Okay, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci monsieur.
Merci beaucoup. Vraiment, en fait, aujourd'hui, j'ai découvert le Pré Saint-Ouen. Vous marchez un peu, vous voyez les beaux bâtiments, et quand vous allez dans d'autres lieux, vous voyez les bâtiments défavorisés. Mais ces bâtiments-là, en fait, ils ont beau être défavorisés, mais il y a quand même ce côté familial, cette solidarité entre les gens, et ça, c'est trop beau.
Allez, venez, les sociologues.
Et donc, vous parliez d'une... gentrification planifiée avec l'idée de permettre qu'il y ait davantage de mixité sociale. Ça, c'est justifié comment? On espère quoi? C'est quoi la promesse pour les classes populaires?
L'argumentaire de la mairie communiste à l'époque, c'était de dire bon, ben, on a compris qu'avec la désindustrialisation, on pouvait plus compter être qu'une ville ouvrière. comme si avec la désindustrialisation, les ouvriers allaient se dissoudre, allaient disparaître et qu'il n'y aurait plus d'habitants et que donc il fallait venir faire venir d'autres gens.
Anne Clerval.
Sauf que la désindustrialisation, ça n'a pas dissous les ouvriers. Ça fait qu'ils sont soit devenus employés, soit plus en difficulté qu'avant. Parce que justement, il n'y a plus d'emplois ouvriers qualifiés qui correspond à la main-d'œuvre. Donc, j'étais très étonnée, moi, de voir ce discours-là dans un élu communiste qui, par ailleurs, était à la pointe de l'encadrement des prix dans le logement. Enfin, il y en a peu, même d'autres élus communistes qui font ça. Et ça, c'est les années 80, c'est-à-dire le moment où il y a des émeutes dans les grands ensembles, dans les quartiers qu'on commence à désigner comme immigrés, ou etc. Et on commence à montrer du doigt ces quartiers en disant qu'il y a un problème. On ne le dit pas comme ça, mais en gros, il y a trop d'immigrés au même endroit. Et en 2003, la droite est au pouvoir et dit « bon, bah, on a tout essayé, ça ne marche pas, et bah, on va faire de la rénovation urbaine, c'est-à-dire qu'on va démolir une partie de ces quartiers. Puisqu'il n'y a rien qui marche, on va les démolir et on va reloger les gens ailleurs. »
C'est l'ANRU, ce qu'on appelle
c'est l'ANRU. C'est l'ANRU, exactement. L'Agence nationale pour la rénovation urbaine, c'est une politique qui veut disperser et qui même impose des démolitions. Si vous voulez améliorer des grands ensembles, donc vous voulez de l'argent public de l'État parce que vous n'avez pas assez pour la commune, vous ne pouvez l'obtenir que si vous démolissez une partie des logements sociaux. Par ailleurs, c'est beaucoup plus cher de démolir et de reconstruire un logement social que de le réhabiliter. C'est 3 à 4 fois plus cher. Je sais pas, quand même, on met de l'argent public pour démolir des logements sociaux alors qu'on en manque. Ce truc-là pourrait être questionné. Or, ça l'est très peu, parce que tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut casser ces concentrations des classes populaires. Ça montre la force de l'idéologie de la mixité sociale. C'est que tout le monde pense que c'est beaucoup mieux de les disperser.
Et alors, quelle critique on peut lui adresser à cette idéologie de la mixité sociale ?
C'est beaucoup de postulats, de penser que si on met des gens plus aisés, pas forcément des très riches, hein, mais des classes moyennes à côté des classes populaires, ils vont se mélanger. Il n'y a rien qui le prouve. Et par ailleurs, ça ne redistribue pas les richesses. Et en plus, on est dans un contexte où les inégalités augmentent et où les classes populaires se paupérisent, sont de plus en plus au chômage, de plus en plus précaires, de plus en plus dans la galère. Donc en fait, on n'arrive pas à démanteler des quartiers riches, ça, voilà, mais on démantèle des quartiers populaires aujourd'hui. Et puis l'autre chose, bah, puisqu'on parle de gentrification, c'est que cette idéologie de la mixité fait aussi que la gentrification est vue d'un bon œil. Bah oui, c'est bien, regardez, c'était tout pourri, ça se réhabilite, etc. Sauf que, oui, c'est vrai, ça se réhabilite, c'est mieux, alors que c'était tout pourri il y a 20 ans, effectivement. Sauf qu'au passage, il y a des gens qui peuvent plus loger ici.
C'est le vieux Saint-Ouen ici. J'habite ici, je crois, depuis une dizaine d'années, en fait. Donc j'ai bénéficié d'un logement social. Je crois que les pouvoirs publics parlent d'enclavement, un quartier enclavé qui est une des raisons qui justifie l'intervention des pouvoirs publics pour faire une réorganisation sociale et du quartier. Mais en fait, l'enclavement n'est qu'une conséquence d'un abandon des pouvoirs publics dans le quartier, en fait.
Stéphane.
Le métro, il est à 10 minutes à pied ou 5 minutes. Il y a un parc, on est au bord de la Seine, il y a un marché. Il y a des cafés, il y a une maison de quartier, etc. Donc ce n'est pas un quartier enclavé. Pour répondre à l'ANRU, si tant est qu'il est encore nécessaire de leur répondre.
Donc ce quartier-là, il est justement pointé comme problématique et donc menacé, c'est ça ?
Alors c'est drôle parce que c'est un périmètre, l'ANRU, pour pouvoir dire là il y a des problèmes. Il suffit de bien cibler sur la carte les 3 ou 4 immeubles qui produisent forcément une densité assez forte, alors qu'il suffisait d'accroître le périmètre de 150 mètres et d'avoir une statistique qui baisse automatiquement, quoi. Il y a des informaticiens et j'imagine des mathématiciens à l'ANRU qui savent construire des problèmes. Il y a aussi une concentration de difficultés sociales et économiques, on va dire. En tout cas, ça veut dire forte proportion de familles monoparentales, familles isolées avec des enfants, chômeurs, comme on dit, après, suroccupation des appartements, etc. Pour moi, c'est plutôt la preuve d'un abandon. Moi, je ne vois pas où est le centre social ou la mission d'insertion, etc., qui serait là pour s'occuper. Bon, il y a une désertion assez large. Et donc, le soutien municipal à des structures qui peuvent réaliser des politiques publiques, hein, ou des services publics, comme vous voulez, elles sont en déshérence et
on en revient, ouais, à l'abandon.
Oui, quand même, un peu. Enfin, les problèmes, ils viennent pas que de la population, en fait. Ils viennent aussi des pouvoirs publics, en fait. Et de l'investissement, en fait, dans le quartier, quoi.
Et donc, qu'est-ce que ça produit très concrètement d'être dans un périmètre ANRU ? Qu'est-ce qui se profile, là, pour ce quartier dans lequel on se trouve ?
Il est interdit de parler de destruction, on parle de rénovation. Mais la rénovation, elle passe par des moyens forts, en grue et en camion de défense. C'est-à-dire qu'il y a, je crois, je ne me souviens plus exactement des chiffres, mais il y a 250 appartements qui sont détruits. Des appartements en plus qui sont pour les personnes les plus en difficulté, ou en tout cas qui sont à peine au SMIC, ou un truc comme ça. Donc il s'agit de ventiler un petit peu, non pas de rénover les fenêtres, les moyens de chauffage, la borne internet du quartier, c'est juste une destruction. On peut considérer effectivement que les appartements sont vétustes et qu'ils nécessitent des rénovations, en particulier en termes d'économie d'énergie, d'isolation des fenêtres, des choses comme ça, ou rénovation de la sécurité, d'accès à la cage d'escalier, etc., quoi.
Vous pensez que les relogements qui seront proposés, ce ne sera pas à Saint-Ouen ?
Il y a des relogements dans le patrimoine existant. Et il y a des relogements vu que ça fait beaucoup de foyers, je pense qu'il y a deux constructions d'immeubles qui sont prévues, dont une près de Leroy Merlin. Donc dans la Pampa, où il n'y a plus de bus, où il n'y a plus rien, en fait, c'est loin, c'est sur la Seine, plus bas là-bas. Et une, je crois qu'il y a un immeuble qui est prévu de relogement, qui est fléché relogement, en attendant la retransformation du village olympique en appartement. Et donc dans les 12 ou 14 immeubles qui ont été construits par des promoteurs privés, donc il doit y avoir un immeuble qui est dédié à reloger des gens qui sont déménagés.
Et pour vous, d'être quartier en rue, c'est une opération de gentrification ?
Oui, c'est une opération délibérément de gentrification, bien sûr. D'embourgeoisement d'un quartier. Alors, embourgeoisement, si c'est les gens qui habitent ici, qui tout d'un coup ont tous un travail et dont leur pouvoir d'achat augmente et que leurs appartements sont un peu plus confortables, on pourrait parler d'un embourgeoisement du cadre de l'habitat. Bon, bah, très bien. Mais en fait, l'embourgeoisement, c'est pas de celui-là dont on parle. Effectivement, il va y avoir de l'amélioration de l'habitat. Mais en réalité, il y aura un changement de population pour qu'il soit accessible, non pas directement aux personnes qui ont vécu ici pendant 20 ans, par exemple, et qui ont enduré, je ne sais pas, les dealers, les souris, les rats, les infiltrations, les défauts d'isolation des bâtiments, etc. Donc ceux qui ont essuyé les plâtres, eh bien, ils ne bénéficieront pas de l'ANRU, en fait.
Est-ce qu'il y a de l'inquiétude ? Est-ce que vous êtes inquiet, vous, par exemple ?
On est toujours un peu con avec cette question-là, parce que soit on l'est et puis on s'en cache parce qu'on va être assez fort, mais n'empêche que ça touche à un truc essentiel qui est le logement. Non, moi je pense que le plus important, c'est vraiment s'apercevoir que l'ANRU n'est pas là pour défendre l'habitat social, en fait, ou le logement avec des loyers modérés. Aujourd'hui, on parle d'encadrement des loyers, mais c'est de la rigolade, en fait. Moi, ce qui m'étonne le plus là-dedans, c'est de voir que les gens qui ne veulent pas partir, ils sont... Alors, on pourrait penser qu'ils ont des privilèges parce qu'ils bénéficient d'un loyer très modéré par rapport au prix du marché, etc. Mais le fait de bénéficier d'un loyer modéré, finalement, ça constitue un droit. Et que c'est peut-être un droit au logement, comme ça, aussi petit soit-il, ben c'est peut-être le seul patrimoine qu'on a, en fait. La bataille pour le logement social, c'est aussi de dire que c'est le seul patrimoine des pauvres, en fait. Moi, c'est mon seul patrimoine, voilà.
C'était Saint-Ouen, ici, c'est le Grand Paris. Merci à Lana, Malak, Ahmed, Maria, Néo, Maël, Brienna, Lina, Selim, Yakuba, Aya, Ager et tous leurs camarades de la seconde 2 du lycée Marcel Cachin, ainsi que leur super prof principal et prof doc Adélaïde Barjot et Anan Amekran. Merci aussi à Mourtar Diallo, Jeanne-Marie et Justine, Anne Clerval, Samuel, Mathieu Bonny, Touko Gadam, Stéphane, et les Odoniens rencontrés à l'improviste. Prise de son, Charles Bouticourt, Julien Girard et Florent Bujon. Mixage, Claire Levasseur. Documentation Radio France, Eva Canet-Barreau. Attaché de production, Anaï Morales et Marie-Vonne Abolivier. Coordination, Emmanuel Laurentin.
Gentrification. Quand les espaces populaires s'embourgeoisent. Une série documentaire de Clémence Alzard, réalisée par Gilles Blanchard.
Vous pouvez retrouver cette émission sur franceculture.fr et l'application Radio France.
Vous êtes bien sur France Culture.
C'est que pendant... Bonsoir à toutes et à tous. Juste après les informations, questions du soir, première partie, un débat, une discussion et une semaine après la chute du régime de Bachar al-Assad en Syrie, quel impact sur les autres puissances? La bascule est-elle régionale? Et puis à 19h, dans l'actualité des idées et de la recherche à l'occasion des 30 ans du programme de l'UNESCO intitulé « Les routes des personnes mises en esclavage, résistance, liberté, héritage », lumière sur